soleil tape aux lucarnes des jours, souffle du sel ardent dans les poumons du ciel. Les nuages ont pour gloire les rayons du ponant, et les arbres coincés ont les cheveux qui poussent. La nuit est un couteau dans un reflet d'œil fou qui ricane des dents et se coupe la gorge. Et son sang est rosé, et son sang est semence dans un sillon brûlant ouvert du sud au nord. Et son sang est rosé, et son sang est semence. Et son sang est semence dans le sillon brûlant d'une petite mort. Alors la nuit, c'est une idée, et c'est aussi une période. C'est un moment un peu particulier où on a à la fois la crainte et la peur, puisqu'il fait sombre et noir. Mais en même temps, on a le contraste, puisqu'on a la lumière, les étoiles au moins, et puis celle qu'on diffuse nous. Et puis après, il y a aussi la rêverie, l'imaginaire, les contes, les grottes, les feux, le gris, le noir, la lueur et tous les contrastes entre les deux. C'est un moment particulier où on va dire que avant de naître, on y était peut-être un petit peu, dans une sorte de nuit, même si le souvenir, on n'en a pas trop. Mais l'idée de ce concept-là, calqué sur un disque et sur de la musique, et sur le concept d'un album, c'est-à-dire on part de quelque chose de peut-être un peu coercitif et inquiétant, et on va vers l'aube, on va vers la lumière, on va vers la lueur. C'est l'idée de cet album, et puis c'est aussi quelque chose qui peut être une métaphore de notre époque, sans vouloir la caricaturer, on peut dire qu'elle est parfois inquiétante. Elle est aussi surprenante et puis elle est aussi très intrigante, mais on l'espère aller vers de la lueur en tout cas. Et puis moi j'en ai passé des merveilleuses, notamment sur le plateau du Larzac. Il y a de ça dans ce disque, et c'est une des formes de l'espoir, je trouve. Que d'écouter les insectes en pleine nuit à la lueur des étoiles, c'est quand même encore quelque chose qui est précieux et qui nous échappe. Donc c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Et puis la nuit, c'est aussi un moment de fête pour certains. Enfin, c'est un moment où peut-être... On tombe un peu plus les masques aussi, parce qu'on en a moins besoin, grâce à l'ombre, quoi. Donc c'est un moment où on se cache peut-être un peu moins, parce que c'est l'environnement qui nous cache. On est moins dans l'idée du travail, dans l'idée de paraître. Si on se travestit, c'est parce que ça nous ressemble. Sinon, on se montre comme on est, même si on est seul chez soi. C'est ça l'idée de la nuit aussi.
Nous couvrirons de fleurs nos herbiers pour mater les douaniers des douanes acoustiques. Il n'y a plus de musique, la fanfare est cassée et rampent à nos pieds les violons déchirés des guitares électriques. Passe les voies lactées, passe les voies lactées. Viens, j'ai le parfum léger et le palpitement de mes cils papillons. Entre ton cœur et le mien, il y a bien l'accent d'une valse à deux mains. L'horizon, c'est nos yeux et l'axe d'une étoile. Dans mes bras de voyou, je cherche comme un fou ta robe de sultane. Passe les voies lactées, passe les voies lactées. c'est notre hymne à nous deux. Tu les remplaces tous, je les remplace tout le temps de quelques cris. Viens t'allonger dans la nuit et remplir notre herbier du piquant des rosiers. T'allonger dans la nuit de cette terre douce. Qui grouille de parfums et de rire d'enfant. Alors nos corps fragiles, alors nos corps d'argile, au milieu de la mousse, pousseront leur envol. Pour chevaucher encore le dos de la grande ours. Passe les voies lactées, passe les voies lactées, passe les voies lactées.
Pour passer de l'obscurité à la lumière, je pense qu'il y a plusieurs chemins possibles. C'est l'expérience de l'avoir déjà vécu peut-être qui nous guide, c'est-à-dire que pour l'instant, toutes les nuits que j'ai vécues, elles ont toujours débouché sur une aurore. Par l'expérience, j'ai toujours vécu des matins. Voilà. Je reste persuadé, malgré tout, qu'on a la ressource pour traverser les nuits. Et puis, c'est aussi des rencontres qui nous guident vers l'aube, quoi. Voilà. Alors, ça peut être des rencontres en présence, physique. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, j'ai vécu des nuits assez folles. Et puis, même si c'était pas des nuits de sommeil, on allait toujours vers la lueur quand même, voilà, même dans des états de fatigue avancée. Et puis, ça peut être aussi par les rêves. Moi, je fais des rêves assez fous quand je dors. Donc, ça m'a toujours guidé vers les matins, quoi. Et le plaisir de commencer sa nuit en se disant « je vais vivre des aventures assez folles pour pouvoir me réveiller après ». Donc c'est presque une métaphore de la vie, quoi, aussi, hein. C'est-à-dire que là on est dans la lumière, on glisse tous vers la mort de toute manière. Donc comment on voit ce truc-là, quoi, comment on le transcende, c'est l'idée qu'on retrouve dans Dead Man de Jim Jarmusch et aussi dans La Nuit de Philippe Druyer, la BD. Donc on est dans ce truc-là de comment on transcende la noirceur, qui n'est pas toujours quelque chose de péjoratif, mais qui est une expérience vers quelque chose qui nous illumine. Donc comment, c'est toujours difficile à dire. Moi, c'est par l'imagination, par la poésie, par les rencontres, par la nature. Donc la nuit en elle-même, c'est plein de silhouettes, quoi. C'est ça qui est fabuleux, c'est que on est quand même constitué beaucoup à partir de nos yeux. On est des êtres voyants énormément. Et donc le moment de la nuit, c'est un moment où tout se transforme et justement où on est privé d'une partie de notre sens principal presque. Il se transforme, quoi. On peut plus l'interpréter de la même manière. On est plus clairvoyant, quoi. Et donc du coup, bah, il faut interpréter les choses. Et donc c'est vachement intéressant en fait, parce que on distingue plus qu'on voit. Et donc on imagine, on raconte, on se crée des histoires, on se crée des mondes. J'imagine que dans les grottes, à une certaine période de notre humanité, on vivait ça, c'est-à-dire que à la lueur des flambeaux, avec les gens, peut-être attroupés, la forme des pierres, on pouvait projeter comme ça des ombres sur les murs. À la faveur de la nuit, tout un tas de choses prenaient une dimension différente, quoi. Et donc de là, on pouvait se faire peur, mais comme pour les enfants, quoi, pour de faux. On pouvait vibrer, on pouvait se raconter des histoires. Et puis c'est un moment aussi où peut-être on était moins affairé à chasser ou à survivre dans le cadre sécurisé d'une demeure, quoi. Et donc on pouvait se laisser aller à parler, à se rencontrer, à s'imaginer ensemble. et puis à vivre d'autres expériences, quoi, qui étaient peut-être moins faciles à vivre le jour. Et puis c'est aussi les nuits d'amour, évidemment. Ça, c'est encore d'autres dimensions. Moi, je suis un peu nocturne et j'ai souvent vécu à la faveur de la nuit des expériences très personnelles qui marquent et la mémoire et l'imagination. Donc, c'est des moments que je trouve géniaux parce que même s'il y a des gros contrastes, c'est pas des moments manichéens, tout blanc, tout noir. C'est plein d'expériences et de, ouais, de chromatisme, quoi. Flèches. À fabriquer des flèches dans l'âme des roseaux et creuser dans les souches d'imprenables châteaux, voir dans le nœud des planches des yeux, des rues, des démons et ces pays perdus où grouillent les bisons. Je t'ai tant attendu bouffé de l'espérance avec qui j'aimais bien salir mon pantalon, avec qui je partais chevaucher des fantômes dans l'espace où les rêves sont infiniment grands. La porte qui y mène est un passage étroit. Et j'ai grandi si vite avec ce déjà-vu qui fait qu'à tant de piges, mon corps n'y passe plus. Je reste là pourtant, un pied dans l'ouverture, en espérant y voir passer la chevelure des comètes, des fées, des dragons, des titans que je gardais en moi quand j'étais un enfant. Il a été inspiré notamment par une conférence de Federico Garcia Lorca sur le jeu et théorie du duende. Donc le duende qui est, selon ses dires, l'esprit espagnol, l'esprit du flamenco notamment. C'est un esprit viscéral et c'est ce que je retrouve moi dès que j'essaie de m'exprimer à travers ce que je sais faire, c'est-à-dire chanter, écrire, faire de la guitare, rencontrer des gens. C'est-à-dire comment on abandonne la technique pour aller vers un esprit plus animal, plus brut. Moi, dans mon jeu de guitare, par exemple, puisque ça a été ma première rencontre avec la musique, la guitare, je suis parti de l'instrument en ayant une approche au début assez technique, parce que j'ai commencé un peu tard, j'avais 19 ans. J'ai appris tout seul et j'étais très admiratif de tous les guitar-héros que j'ai découverts au travers des disques. Jimmy Page, Jimi Hendrix, Steve Vai, Jeff Beck aussi beaucoup. J'étais assez fasciné par le fait qu'on puisse maîtriser autant un instrument, un objet. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des gammes, à repiquer des plans sur les disques. En fait. Ça m'a beaucoup servi, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que les quelques fois où j'ai joué de la guitare pour impressionner le monde, quand je me suis retrouvé seul chez moi devant ma glace, je me suis retrouvé bien con. Après, c'est comment, après ce constat-là, on va vers quelque chose de mieux, selon moi. C'est-à-dire toute la musique qu'on a à l'intérieur de soi, comment on la fait sortir de la manière la plus directe et la plus pure, même si c'est un mot un peu délicat, possible. Et donc pour ça, il faut abandonner l'intellect et il faut abandonner, je crois, les réflexes et aller chercher quelque chose de beaucoup plus viscéral. Donc, c'est ce dont parle Lorca, cette espèce de duende, cette espèce de feu intérieur qui est propre à chacun. C'est se rapprocher d'une forme de transe, je crois, ouais, une forme d'animalité, j'y reviens, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on laisse de côté le cerveau qui pense et puis on se connecte au cerveau qui ressent, quoi. Je suis un animal, mais je suis que moi, donc je sais pas ce que vivent les autres animaux. Mais je peux imaginer, pour en avoir observé pas mal et pour m'y intéresser un peu, qu'il y a une forme de spontanéité que je trouve assez belle et fascinante. Donc j'essaie d'être connecté à ça quand je joue, quand je compose ou même quand j'écris. Quand j'écris, si je tombe dans une forme de systématisme, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, j'arrête. Et c'est pareil à la guitare, quoi. Évidemment, on peut que jouer avec ce qu'on est et avec ce qu'on a appris. C'est un peu comme la parole, quoi. On est fait de tout ce qu'on a écouté, de tout ce qu'on a entendu et puis aussi de ce qu'on est capable de dire. Donc évidemment, je peux jouer que ce que je suis. Mais j'essaie de le faire de la manière la plus sincère et surtout la plus sensible et sensuelle possible, quoi. Sensuelle dans un sens, il faut que ça écorche, quoi. D'ailleurs, ça m'arrive de saigner des mains à la fin de certains concerts. Mais j'y mets du cœur, quoi, voilà. J'y mets du cœur, et c'est pareil dans mon chant, que je travaille pour ça. Et c'est pareil d'ailleurs pour la couleur du disque, dans le traitement de la voix, où on a choisi quelque chose d'assez brut. Enfin, on est quand même à une époque où on lisse beaucoup les choses, on traite beaucoup les choses pour qu'elles semblent les plus cliniques possibles, quoi. Justement, on s'éloigne du sol, je trouve, et du coup de l'animalité et de l'aspect naturel, même si naturel c'est un grand mot aussi, mais des choses. Donc c'est comment, en faisant un disque qui est quand même un objet un peu numérique, surtout aujourd'hui, on y insuffle quand même une forme de vie, parce qu'on est encore des gens qui respirons, qui sentons, qui bouffons, enfin on est encore vachement là-dedans, hein. Malgré tous les avatars qu'on se crée à l'heure de l'internet. Moi je viens de là, enfin moi j'ai grandi dans un petit village héraulté au milieu des vignes et de la garrigue, donc c'est comment tout ça, ça se traduit et ça se trahit pas. Voilà. Jeu et théorie du Duende de Federico Garcia Lorca, où il parle de l'inspiration et de la source de celle-ci. La muse dicte, et à certaines occasions, elle souffle. Elle a relativement peu de pouvoir, parce qu'elle est déjà lointaine. Et elle est tellement fatiguée qu'on a dû lui mettre un demi-cœur de marbre. Les poètes à muse entendent des voix, et ils ne savent pas d'où elles viennent. Mais ce sont les cris de la muse qui les encouragent, et quelquefois, les croquent tout crus, comme ce fut le cas d'Apollinaire. Grand poète détruit par l'horrible muse avec laquelle l'angélique et divin Rousseau le peignit. La muse éveille l'intelligence. Elle apporte des paysages à colonnes et la saveur illusoire des lauriers. Or, l'intelligence est bien souvent l'ennemi de la poésie, parce qu'elle limite trop, parce qu'elle élève le poète sur un trône aux arêtes aiguës et lui fait oublier que tout à coup, il peut être mangé par les fourmis, ou qu'il peut lui tomber sur la tête une grande langouste d'arsenic, contre laquelle les muses qui vivent dans les monocles ou dans la rose de lac tiède du petit salon ne peuvent rien. L'ange et la muse viennent du dehors. L'ange donne des lumières et la muse des formes. Peint d'or ou plis de tunique, le poète reçoit des normes dans son bosquet de laurier. En revanche, le duende, il faut le réveiller dans les dernières demeures du sang.
Évidemment qu'on vole en fixant les nuages, la lingerie des femmes aux fenêtres des cages. Et tu manges et tu bois, et tu baises et tu foutres, comme le font les loutres de novembre à novembre. Évidemment, toujours des matrones lubriques construisent avec des briques des cantines et des coups, et les fétus de paille s'envolent avec le vent. Les trois petits cochons s'en souviennent souvent. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse, et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux, sortis des chrysalides, apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. Les cigognes t'apportent un nouvel arbrisseau. Va donc chercher un pot pour les plantes et les pognes, harassées de besogne et traînant les sabots. Il courbera le dos au passage des cognes. Entre le monde ancien et le monde nouveau, aux arbres citoyens des forêts de drapeaux, et tandis que les chiens défilent en colonne,
Les sciences abreuvées font des armées de clones. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse. Et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux sortis des chrysalides apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. La vie est mosaïque ou bien n'est-elle pas comme un chien qui renifle un chagrin qui s'en va. Allez au large, allez au large. Il y a des chiens pourtant qui ne sont bien qu'en laisse. Et puis quand on les laisse, ils se taillent là-bas où les oiseaux sortis des chrysalides apprennent aux éléphants à sauter dans le vide. Assis près d'une vitre du Milan Singapour, les nouvelles vont vite entre nous, mon amour. Tes lèvres sur mes joues comme des sucres d'orge resserrent le collier qui me serre la gorge.
La fraternité, c'est quelque chose, quoi, la fraternité. Moi, j'en ai. Et je conseille à beaucoup de monde d'en avoir. J'ai la chance d'être entouré de gens que j'aime beaucoup, qui ont ce truc-là aussi, c'est-à-dire cette forme d'amour sans contrepartie, quoi. J'ai quelques personnes comme ça autour de moi qui sont quand même des gens que je trouve assez extraordinaires et que j'aime profondément et desquels j'attends rien. Si c'est de passer du temps, ce qui est plutôt agréable. Et puis après, il y a la fraternité plus universelle. Enfin, je pense qu'elle a la même source, mais c'est celle de notre République, par exemple. Donc c'est un très beau concept, même si on ne le met pas assez en avant. Je pense qu'il trouve aussi sa source un peu dans l'empathie. C'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille, l'empathie, quoi. C'est comment j'arrive à... Ne plus juger, c'est difficile. Moi, je pense qu'il y a trop souvent, je suis dans le jugement, mais peut-être que plus que juger, c'est condamner qui pose problème. Voilà, essayer d'éviter d'être dans la condamnation et d'être dans... et le fait de recevoir l'autre, de recevoir les gens. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens sacrément difficiles à recevoir, mais, peut-être que moi, j'ai eu la chance, petit, de comprendre que finalement, on se ressemble un peu tous. Parce qu'on a un peu tous les mêmes problèmes de base, quoi. C'est-à-dire qu'on est né, on va crever un jour, et puis entre les deux, il faut essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait. Donc il faut vivre avec ces questions-là, et puis chacun les manifeste un peu à sa manière, quoi. Voilà, on a tous envie d'être aimé, on a tous envie d'être accepté, d'avoir une place, de plein de choses comme ça. Et puis on a tous été gamins, Donc, dès qu'on a ces quelques concepts-là en tête quand on rencontre quelqu'un, finalement, on peut s'apercevoir que même si, pour certains, on peut les trouver détestables, il y a toujours une part d'eux qui nous ressemble, quoi. Donc, c'est comment on s'appuie là-dessus pour essayer d'être au moins cordial, voire fraternel. C'est-à-dire, même si je n'ai pas envie que tu fasses partie de mon cercle proche, je suis content que tu existes, quoi. Et que tu te trouves une place dans le monde qu'on a, parce qu'il est quand même vaste. J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet, je sais pas si je vais la sortir là, peut-être elle n'a rien à voir, mais... Pareil, quand j'étais enfant, j'ai eu un choc, un choc émotionnel par rapport à la vastitude du monde. C'est-à-dire que ma mère avait mis, je crois que je devais avoir 10 ou 11 ans, ma mère avait mis dans les toilettes de la maison une carte du monde. Et je n'avais jamais vu avant, ou peut-être j'avais pas fait attention, c'est plus ça je pense, parce que quand même à 10 ans, j'avais dû en voir, mais j'avais peut-être jamais fait gaffe. Bref, et donc je vais aux toilettes, et je me retrouve en face de cette carte, et j'ai eu un choc de me dire, mais c'est pas possible en fait, on peut pas, c'est trop petit, on peut pas représenter le monde dans un truc, sur une feuille, quoi. Et j'étais profondément déçu, je me suis dit, mais c'est incroyable quoi. C'est comme si mes rêves de grandeur, ils n'avaient pas de limite. Tout d'un coup, il y en avait une, c'était le cadre de cette feuille, quoi. Et de voir le monde comme ça en un seul coup d'œil, ça me paraissait tout d'un coup hyper pauvre, quoi. Alors, bien évidemment, quand on grandit, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est juste pour dire que du coup, d'éclater un peu les horizons, malgré ce qu'on voit, c'est quand même un beau cadeau, parce que accepter le vide et la méconnaissance, c'est une grande force, je trouve, parce que ça permet de se désaxer de soi, et puis de... Je ne veux pas faire le philosophe non plus, mais, parce que je ne suis pas, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de la fraternité, je trouve que ça reste important d'accueillir les questions et les doutes. La sensualité, alors, ça c'est extraordinaire. C'est un mot que certains peuvent considérer presque comme un synonyme de sexualité, ce qui n'est pas du tout le cas, je trouve, même si ça se rejoint. Mais la sensualité, c'est le rapport avec le concret, quoi. C'est-à-dire que si on prend par exemple le sens du toucher, si on l'observe bien, en fait c'est un sens qu'on utilise tout le temps sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'à moins que vous soyez capable de l'éviter, ce qui est quand même assez rare, vous êtes tout le temps en train de toucher quelque chose, quoi. Avec vos pieds, avec vos fesses, avec tout ce qu'on veut. La sensualité, pour moi, c'est une forme d'observation et même de conscience, quoi. Voilà. Avoir conscience du fait qu'au présent, là, tout de suite, si je déconnecte un petit peu le flot des soucis, des pensées, de tous ces trucs-là, c'est que je suis en train de vivre par mes sens, quoi. Je suis en train de respirer, ce qui est une forme du toucher aussi, presque. Je suis en train de voir, même si j'ai les yeux clos, c'est aussi une forme de vue de nuit. Je suis en train d'entendre, je suis en train de ressentir. Et puis il y a aussi toutes les déclinaisons, quoi. C'est-à-dire que parfois j'ai l'impression de voir ce que je sens ou de sentir ce que je vois. Et puis il y a la musique, évidemment. Et alors ça, des fois il y a des gens qui vous disent « Ah, c'est extraordinaire, ça m'a donné des frissons. » Bah, c'est bien que la musique, elle est épidermique, quoi. C'est bien qu'il y a une traduction entre... l'onde de l'air et l'onde de la peau, jusque même l'onde des poils. Donc la sensualité, c'est la vie, quoi, je trouve. C'est vrai qu'un peu en Occident, parfois on est un peu des têtards, quoi. C'est-à-dire qu'on vit un peu dans notre tête et on oublie un peu le corps. C'est beaucoup là que ça se passe, quoi. De toute façon, notre tête, c'est aussi notre corps. Donc voilà, la sensualité, ça reste quelque chose à travers laquelle la vie coule, quoi. C'est une espèce de canal. Et quand on est un peu contemplatif, ce qui, je trouve, est une forme des plus... active de l'observation. Des fois, la contemplation, on a tendance à dire que c'est très passif, mais je crois que c'est tout le contraire. Du coup, on peut se poser quelque part. Moi, alors, c'est souvent plutôt en nature, parce que je trouve que la nature, c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à voir indépendamment de nous, parce que c'est aussi des sensations et des sensualités. La ville, c'est un endroit minéral. C'est-à-dire que si on enlève les gens, n'y a plus grand chose quoi. Alors que ce qui est très reposant dans la nature et fascinant, c'est que quand j'y suis, j'ai la sensation que même si j'étais détruit, ça me survivrait quand même quoi. Donc ça existe malgré moi. Alors c'est très fascinant, c'est la vie en dehors de moi quoi, et puis avec moi puisque j'y suis et que je l'aperçois avec mes sens. Donc du coup la sensualité, c'est une façon de recevoir le monde et puis de le vivre. Je sais pas, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est la vie, quoi. Œuvre qui m'a marqué dans l'influence du disque, c'est La Nuit de Philippe Drouillet, donc qui est une bande dessinée assez extraordinaire. C'est une BD qu'il a écrite après la mort de sa femme. Et Philippe Drouillet, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'est quelqu'un qui a, on va dire, rendu une âme adulte à la BD qu'on considérait comme trop enfantine avant, qui en a fait quelque chose de beaucoup plus universel. Donc La Nuit, c'est le principe que le disque ou que Dead Man de Jim Jarmusch, c'est on commence par quelque chose d'assez dur et on finit vers la lumière quoi. Et donc là je suis devant une case, et pour faire le lien avec la sensualité, là on est dans la sensualité des yeux quoi. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'on pourrait toucher ce qu'on voit, tellement il y a du grain et il y a de la peau sur les couleurs quoi, c'est assez fou. Donc c'est une grande case sur une double page. Et on est à un moment de la BD où une bonne partie des personnages arrivent en face de ce qu'ils espéraient, on va dire ça comme ça. Je reviens encore sur la sensualité parce qu'il y a chez lui beaucoup de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de matrice quoi, au centre de l'image qui est à la fois très inquiétante et très sensuelle aussi, très sexuelle aussi d'ailleurs. Parce que j'en ai pas parlé un peu avant, mais évidemment, toucher quelqu'un, c'est quand même quelque chose. Donc, si je décris un peu cette case, elle est en format portrait, donc sur une double page A4. Et on a une foule de gens qui vont vers cette espèce de forme un peu matricielle qui pourrait faire penser à Fritz Lang aussi, à Metropolis. Donc on a une espèce de tour énorme faite de visages, de membres, qui est très très ancrée dans le sol, mais comme si elle l'absorbait quoi. Et puis elle est entourée d'un halo de lumière, et elle est à la fois terrible parce qu'elle a les yeux rouges et elle a des espèces de gerbes de flammes qui lui sortent de ses différentes bouches. Et en même temps, du coup, le peuple qui est fasciné et qui se bat pour aller jusqu'à elle. Donc les gens, quoi, avec les gens en premier plan qui ont des choses tatouées sur le front et sur les joues et qui, en fait, ils parlent de dope, quoi. Enfin, la dope. C'est ça qu'ils cherchent, le dépôt bleu, source de nos vies. C'est assez fou quoi ce dessin quoi. On est dans une espèce d'espoir fou et presque suicidaire, mais en même temps magnifique quoi. Voilà pour cette case. Je rejoins cette folie là un peu parce que je trouve que le plus intéressant c'est le chemin, c'est pas le but. La quête en elle-même, c'est ça qui est beau quoi. C'est un peu l'histoire de nos vies quoi. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on en connaît la finitude, on a envie de vivre, donc on a envie d'explorer, on a envie de se frotter à ce qui rappe un peu pour que les sens et la sensualité existent quoi. Pour certains ça peut aller jusqu'à prendre des produits pour se sentir exister, mais je trouve que dans la rêverie ou même dans ce genre d'image quoi, moi ça me fascine suffisamment pour avoir l'impression que le monde est encore plus vaste que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent quoi. Samuel Covell, donc on est à l'aube de beaucoup de choses. Il y a le disque, donc l'album La Nuit, qui sort le 7 octobre à Victoire 2, donc à la salle de musique actuelle de Saint-Jean-de-Védas, mais c'est la SMAC de Montpellier, je crois. Avec une exposition de mon petit frère, Martin Covel, avec qui j'ai collaboré pour pas mal de choses, notamment autour de cet album. C'est lui qui a signé la pochette du disque, qui a signé aussi les illustrations du recueil de textes et de poésie qui est sorti il y a peu de temps, en auto-édition. Et puis, on a travaillé aussi avec lui sur la scénographie et les décors de scène, puisqu'on a fait plusieurs résidences l'année dernière, et notamment une à Victoire 2, sur les lumières et la scénographie. Et donc Martin va faire une expo, le jour de la sortie d'album, donc le 7 octobre. Mais avant, il y a aussi d'autres choses qui se passent, et notamment la belle collaboration avec la cave coopérative de Cabrières. Avant de faire de la chanson mon métier, j'ai été viticulteur, puisque c'est aussi le métier de mon père et de mon grand-père. On a une exploitation familiale et je portais le raisin à la cave coopérative de Cabrières. C'est une cave qui est assez primée pour la qualité de leur travail. Et donc on a décidé pour la sortie de cet album de travailler ensemble et on a sorti une cuvée qui s'appelle donc La Nuit. Comme l'album, c'est une déclinaison de leur vin, la Cantate des Garrigues, dont c'est un rosé. Et puis les gens qui ont apporté le raisin pour cette cuvée, c'est Lucie et Brice, donc c'est des gens que je connais. Ils sont en partie fermiers sur quelques vignes qui me restent. Enfin, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et donc le 10 août, pour fêter ça, on va faire un concert dans la cour de la cave de l'Estabel, donc dans la cave de la cave coopérative de Cabrières. Je crois que c'est à partir de 19h. Il y aura à manger sur place, etc. L'entrée est à 10€. Et donc il y aura dégustation, évidemment. Et puis on fêtera un peu tout ça et on fera un concert avec mon comparse Nicolas Delrox, qui est de Perret aussi, et qui est quand même un gars extraordinaire et un musicien extraordinaire, les deux se rassemblant en une seule personne. Donc je suis très très heureux de jouer avec lui. On commence aussi à faire des performances avec mon petit frère, donc Martin Covel, de peinture et musique live. On a fait notre première dans l'Ariège il y a quelques semaines, ça a été super. Donc l'idée c'est ça, c'est de confronter les gens à la peinture, puisque c'est plus trop un média qu'on voit beaucoup. Et aussi de la peinture qui se fait et qui se vit, quoi. C'est-à-dire qui se crée en live, qui se crée en spectacle. C'est des performances, quoi, pour l'instant. L'album La Nuit, certains l'ont déjà parce qu'on a fait un financement participatif sur Ulule qui a eu un joli succès. Ceux qui ont participé ont eu, j'espère, le plaisir, en tout cas c'est ce qu'on reçoit, de l'avoir en avant-première. Mais donc il sortira en physique le 7 octobre et sur les plateformes numériques le 6 octobre, puisqu'on va être distribué numériquement. Voilà, donc il attend tout le monde, on l'attend aussi. En tout cas, les retours qu'on a eus jusqu'à présent sont plutôt super. On y a mis beaucoup de cœur, on y a mis beaucoup d'énergie et de temps. Je remercie beaucoup ceux qui ont aidé à sa réalisation. Je pense à Denis Capu, bassiste des Barbeaux, chez qui on a enregistré, mixé. Puis Nicolas, avec qui j'ai travaillé sur ses morceaux. Enfin voilà, et puis évidemment Martin, qui a pris le temps de s'imprégner de l'idée pour donner une pochette qui nous plaît beaucoup. Donc l'univers visuel et sensuel de l'album est complet. Là, on n'a pas tout annoncé, tout n'est pas officiel, mais on a des dates quasiment jusqu'en janvier, là, pour l'instant. Donc n'hésitez pas à visiter le Facebook de Samuel Covel, enfin, vous inscrire, vous liker, enfin, tous ces machins, voilà. Bon, peut-être ça ne le mettra pas parce que je le dis très mal. Enfin, n'hésitez pas à suivre l'aventure pour être informé de tout ce qui se passe. Il va y avoir aussi des clips, et notamment sur la chanson qui suit, qui s'appelle « La mélopée du chat tremblant ». C'est une chanson justement où je parle du duende et je parle de cette sensation, on va dire, qui pourrait être d'être assis sur le toit du monde et d'attendre l'aube qui se lève, mais pas passivement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'encouragement à ce que ça se passe, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le fait de danser et d'entrer en résonance avec ce qui nous entoure pouvait aider à la Terre à faire un tout petit quart de tour de plus pour que le soleil arrive plus vite. Voilà, c'est ça l'idée de cette chanson.
Tremblant comme la cime d'un chêne, chantant sa mélopée comme une vieille indienne. Matador, jusqu'à l'aube nouvelle, cambré au sommet des clochers, comme des miradors. pour rire encore de ce croissant de lune avec dans la prunelle le noir des météores. Un cri et pas une réponse en plein cœur de la nuit. Étoile du Nord, il paraît vu d'ici que tu t'évades encore à travers le décor de lumière et de zinc. Et puis de loin en loin des gueules d'atmosphère, quand le coq de Saint-Pierre devient muet. De sentier en sentier, des fusées pour bagages, si tu as l'unicée. Sur ma planète barre, je n'oublie pas tes mirages, tes rêves familiers, tes canines de squale et tes papiers. Ange de volupté, tes ailes sont si larges pour nous envelopper. Qu'on dirait Mira, mi amor, dans sa couchette d'or, un soleil.